RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
François Giuseppi et Tony Parker.
Bonsoir, bienvenue dans le Tipeee Show comme tous les lundis soirs, 21h, 22h avec Tony Parker. Bonsoir, monsieur Parker.
Bonsoir, ça va?
Très bien, et toi-même?
Ça va, en pleine forme.
Oui, tu m'étonnes, on va en reparler bien sûr, on va débriefer.
Tu vas me dire encore la même semaine, même truc, même...
Jacques Monclar est avec nous. Bonsoir Jacques.
Salut François, salut Tony.
Comme tous les lundis.
Ça va Jacques?
Ouais, ça va.
Évidemment, on va revenir sur la brillante semaine des Spurs, mais là on a quand même beaucoup de choses à dire Tony, parce que nous avons de nombreux invités, mais aussi un gros débrief puisqu'il y a eu le match choc du week-end en NBA. Golden State se déplaçait dans la maison des Spurs à San Antonio, chez toi. On va pas dire que vous en avez fait qu'une bouchée, mais vous les avez battus et c'est assez rare pour le souligner en NBA. On y revient dans un instant. Le temps pour moi de présenter les invités du jour, puisqu'on reviendra avec la handballeuse Alison Pineau sur la qualification des joueuses de l'équipe de France de handball pour les Jeux Olympiques de Rio. Après un tournoi de qualif, c'était à Metz ce week-end. Et puis on passera également faire un tour sur les greens de golf, puisque nous serons avec Alexander Lévy qui lui aussi vise pourquoi pas un billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Sans oublier notre débrief basket, messieurs, avec deux invités exceptionnels, puisque nous serons avec Damien Inglis, le joueur de Milwaukee, le français, on a tendance à l'oublier, mais lui aussi joue en NBA. Et puis c'est une découverte, retenez bien ce nom pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeune joueur. Il joue en Serbie, il est français, il est annoncé comme un futur premier tour de draft, c'est Timothée Luwawu. On y reviendra dans cette émission avant 22h. Jacques et Tony, comme tous les lundis, on attend bien évidemment les appels des auditeurs au 3216, le hashtag RMC Live, et puis les lives de ce Tipeee Show. C'est d'abord le basket, la pro Arnaud Valadon, un point sur le match en cours, c'est Nancy pour Arnaud.
Oui, 3 minutes encore à jouer dans le deuxième quart-temps et Nancy a vu son avance fondre 23 à 18, un 9-0 passé par les Palois pour recoller donc les Nancyens qui se sont appuyés essentiellement sur des rebonds offensifs, déjà 10 prises seulement alors qu'on n'a pas encore atteint la mi-temps. 23 à 18 pour Nancy face à Pau, 3 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps.
L'autre direct de Tipeee Show, c'est la Ligue 2 Clermont-Red-Star, début depuis 20h30, Julien Telly.
Ouais, ça fait 33 minutes de jeu sur la pelouse de Gabriel Monpi à Clermont, toujours 0-0 entre le Clermont Foot et le Red-Star, les Clermontois qui avaient dominé le premier quart d'heure de cette rencontre, et puis le deuxième quart d'heure là est plutôt à l'avantage des joueurs du Red-Star qui ont mis le pied sur le ballon, qui récupèrent assez haut avec notamment un milieu de terrain, Maketjouf et Boisa qu'on voit beaucoup. Il y a eu quelques situations chaudes sur les buts de Mehdi Jenin, pour l'instant ça ne passe pas pour les joueurs du Red-Star, mais attention là, cette nouvelle offensive côté gauche là-bas avec Sliti qui va essayer de trouver un partenaire au centre. Sliti là, la balle interceptée par Eugène Ekobo, le capitaine clermontois. Ce sera renvoyé par la défense clermontoise. 34 minutes de jeu à Clermont, 0-0 entre le Clermont Foot et le Red Star.
A tout de suite messieurs pour la suite de ces rencontres. Le Tipeee Show, c'est parti.
RMC, le Tony Parker Show.
Tony Parker, Tipeee Inside.
Alors je l'ai dit en introduction, Jacques et Tony, victoire de San Antonio dans le choc face à Golden State, 87-79. Je vais peut-être vous laisser entre spécialistes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans cette rencontre, notamment Tony et Jacques sur les options de début de match faites par Greg Popovich et San Antonio face à Golden State. Tony, peut-être un petit mot pour commencer sur la tactique et la stratégie mise en place par le staff.
Bah, je vais pas dire nos secrets, hein. Donc, je vais laisser Jacques analyser le match.
Oui, c'est gentil. Mais je crois qu'il n'y a pas de secret, il y a des options. Et déjà, l'adaptation de Greg Popovich à l'attaque des Warriors en mettant Boris. Il aurait pu mettre David West, il a pris le pari de Boris. Ça a été un pari gagnant d'entrée de jeu des deux côtés du terrain. Après, les Spurs, on les a vus directement agresser et faire jouer Steph Curry. Ils n'ont pas eu la réussite à la finition, mais ils auraient pu faire un break d'entrée parce qu'ils avaient les balles de relance, ils les attaquaient, mais ils ont pas trouvé la réussite. Ils se sont servis beaucoup après de Boris en post-up en bas, ça a été leur base de jeu au départ dans la création, et ils ont fait un effort défensif considérable parce qu'ils allaient le chercher très haut, Steph Curry, ils le touchaient. Ils changeaient sur les écrans, mais changer, c'est parfois changer comme des feignasses. Là, eux, ils changeaient en agressivité, en se montrant. En deuxième mi-temps, le petit Curry, il a trouvé une solution en s'emmenant à Aldridge. À un moment, ça a failli basculer. Ils ont accepté de prendre des points à certains endroits pour ne pas en prendre au large. Chaque fois qu'ils ont donné le de l'aide un peu trop, ils se sont fait sanctionner. Harrison Barnes en deuxième mi-temps, d'autres. Ils ont choisi leur poison. Et ça a marché en restant en face et en donnant un gros, gros effort individuel. Parce que bah, Tony, par exemple, il se retrouve sur 6-1 contre 1 avec... 6 fois en 1 contre 1 avec Curry, 2 en début de match et 4 à la fin. Il prend pas de panier. Et individuellement, Danny Green, Kawhi Leonard, Patty Mills à sa manière, ils sont restés concentrés parce que pour défendre collectivement comme ça, se passer un joueur, il faut avoir un mental individuel et collectif. C'était magnifique. Maintenant, c'est la photo d'un match. Et ils l'ont gagné, ils le méritent. Ils le méritent. Aldridge leur a marché dessus dans le final. En 2 matchs, Greg Popovich a toujours pas foutu Duncan contre les Warriors. Ça suffit, aussi. Tony, ou je continue?
Non, mais ton analyse est très très bonne, Jacques. Hein. Très très bien. Très très bien, mais je pense que, comme tu l'as dit, Jacques, c'est que un match. Et c'est comme un jeu d'échecs. C'est des stratégies entre les coachs. Et voilà, le premier match, on a essayé de jouer... à leur rythme, on va dire, et on s'en est pris une bonne. Et là, on a voulu contrôler le tempo. On a joué doucement, on a joué demi-terrain, on a annoncé des systèmes à chaque fois qu'ils marquaient un panier pour ralentir le jeu. Et après, en défense, bah, comme Jacques l'a dit, hein, c'est un effort incroyable pour défendre sur cette équipe-là. Et c'est vrai que tout le monde, on était tous très très concentrés, parce que chacun, on a nos défis individuels, donc moi avec Curry, Danny avec Klay Thompson, mais en même temps, c'est collectivement aussi, comme on change sur tous les écrans.
Comment vous avez préparé le match collectivement dans cette intensité? Est-ce que vous l'avez préparé différemment d'un autre match? Parce que c'était l'affiche, parce que tout le monde en parlait,
c'est pareil,
le premier contre le deuxième.
Non, pareil.
Ah, tu sais, Tony, on a vos interviews, toi, directement après le match précédent, tu en parles. Klay Thompson, 2 jours avant, on avait parlé. C'était un tout petit peu différent, je crois, quand même. C'était pas les playoffs, on est d'accord, mais c'était quand même. Mais
voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas les playoffs.
Mmh. Oui, bien sûr.
De saison. Après, oui, bien sûr, c'est clair que c'est un match important, c'est un gros match de saison régulière, mais on l'a préparé comme les autres matchs, on l'a pas préparé comme les playoffs, où les playoffs, on passe, je sais pas moi, au moins 1 heure de vidéo, c'est beaucoup plus long, quoi.
Laurent est avec nous au 32-16, tout le monde louait la performance défensive, et Jacques vient d'en parler face à Golden State, et Laurent voulait revenir sur ce point avec toi, Tony. Salut Laurent.
Bonjour Tony, bonjour Jacques, bonjour François. Voilà, donc j'ai écouté donc le briefing là du match. Moi, je pense à peu près la même chose. Surtout, j'étais vraiment, enfin, je retiens le nombre de points encaissés, 79 par rapport à la moyenne que marque Golden State depuis le début de saison, 115, 36 points d'écart. Je veux dire, ça c'est une performance, mais impressionnante. Et le fait de switcher en défense que vous avez fait. Cette concentration au niveau de la défense, Danny Green, que je trouvais très médiocre depuis le début de la saison, j'ai trouvé exceptionnellement fort en défense. Sur Curry, il le prenait à partir du milieu de terrain, il était aussi bon en attaque. Et moi, je pense que ce match va. Alors, même si c'est qu'une photographie sur un match, comme dit Jacques, ça peut donner des idées à d'autres équipes, mais je suis un peu surpris parce que ce choix tactique que vous êtes les premiers à l'avoir fait contre Golden State, parce que jusqu'à maintenant, Golden State marquait énormément de points. Ils étaient parfois dans le dernier quart-temps, ils étaient à peu près à égalité avec les équipes, et en l'espace de 3 minutes, ils pouvaient gagner régulièrement les matchs. Donc, ils prenaient leur jeu à leur compte. Et ce que je voulais savoir, réellement, c'est ça me fait penser à un match aussi en... que vous avez joué contre Houston, un match que vous avez perdu, je crois, San Antonio, là. Et Houston avait fait un match en défense, mais hallucinant. Je ne les ai jamais vus défendre, donc j'ai une équipe qui n'a pas cette prétention de défendre. Donc parfois, les équipes avec une motivation, avec une concentration énorme en défense, peuvent soulever des montagnes. Et je veux dire, je suis hyper content de la performance, parce que j'adore San Antonio. Et puis voilà, donc... je suis très 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 heureux du match parce que personne ne s'y attendait. On pensait de voir des 120 à 110.
C'est sûr. D'ailleurs, Laurent, pour rebondir sur ce que tu dis, Tony, face à Curry, ça fait quoi de défendre? C'est quoi les sensations? C'est vraiment plus compliqué que qu'un joueur lambda. Il est exceptionnel, mais en un contre un, ça donne quoi?
Non, bah Curry, c'est, de toute façon, j'ai déjà dit, hein, c'est un joueur unique hein, par rapport à ce qu'il fait, le pourcentage qu'il tire en fait, mais et la distance aussi, ce qu'il tire de très très loin, donc il faut être prêt à tout moment. Il a carte blanche, il peut prendre 25 tirs, 30 tirs par match s'il veut, donc il faut être prêt à tout instant. Et c'est vrai que défendre sur lui, ça prend une concentration immense et beaucoup d'énergie.
Sur la stratégie défensive des Spurs, Tony et Jacques, si je dis que ça revient aux années 2000 quand vous avez été champion en 2003-2005 sur le côté défensif et agressif, puisque c'était la marque de fabrique
au
début de la dynastie.
Si tu veux, la défense, enfin il y a de l'intensité, et dans un niveau de jeu comme ça, contre des joueurs comme ça, t'es obligé d'avoir une hyper intensité, et c'est valable pour les Spurs, parce qu'en attaque les Warriors sont capables aussi de défendre fort hein. Ils en ont chié parfois pour bouger
le... Ce qui fait la différence, je trouve, avec Phoenix Suns, Jacques.
Voilà.
Tu vois, dans les Phoenix à l'époque, ils avaient peut-être une aussi bonne attaque, mais ils défendaient pas comme Golden State. Golden State, ils défendent vraiment. On a eu du mal, nous, aussi, à scorer.
Ça se voyait, ouais, ça se voyait. Après, c'est des options. Et c'est du coaching. Il y a eu des trucs rigolos. À un moment, Steve Kerr, il prend une technique, mais il imite Popovich.
C'est un hommage à Pop quand il prend la technique.
C'était une dédicace. Ceci dit, il avait envie de la prendre depuis un moment. Mais il y a eu des oppositions quand les situations étaient bloquées. T'as vu des joueurs, Tony, la raquette était bloquée, qui met ses deux paniers à trois points. À droite, là, sur une action collective avec des décalages. T'as vu des gars faire des Kawhi Leonard, qui a été constant en fixation, même ça a eu du déchet. Et puis surtout, ils ont attaqué Draymond Green, ils l'ont fait jouer, quoi. Parce que lui, c'est l'usine à basket derrière Curry. Ils l'ont attaqué sur les post-up, ils sont jamais venus trapper. Comme ça, les Warriors ont pas eu leur circulation, ont pas pu avoir leur décalage habituel, qui sont une marque de fabrique. Le staff, là, des Spurs, et Greg Popovich, ils ont choisi leur poison. Ils ont pris des paniers. T'as Brandon Rush, à un moment, il s'est trouvé tout seul 3-4 fois. Ben, ils ont payé là-dessus. Mais tu t'en fous tant que les autres, ils prennent pas feu à 3 points.
Mais c'est une situation qui est inédite dans l'approche de Golden State. Du coup,
ouais,
de voir ces ballons.
Mais ça, comme a dit Tony, ils vont jouer aux échecs comme ça. Ils vont se faire des miches sans arrêt.
Ah, on a hâte d'être en finale de la Conférence Ouest. Il y a encore beaucoup de chemin, bien sûr. Et du coup, au classement, vous restez bien évidemment deuxième de la Conférence Ouest et de la NBA. Et Romain voulait revenir sur l'aspect comptable de cette victoire avec toi, Tony, au 32-16. Salut Romain.
Oui, bonsoir. Salut Tony, salut à tous. D'abord, félicitations Tony, évidemment, hein, pour cette très très bonne victoire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle va être la stratégie de San Antonio maintenant. Est-ce que vous allez tout faire pour essayer de décrocher la première place au final, en jouant à fond les deux derniers matchs face à eux, ou alors on peut imaginer que vous laissiez filer au moins un des deux matchs pour éviter les blessures avant d'entamer les playoffs? Voilà, j'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez les choses d'ici la fin de la saison.
Il y a trois matchs encore entre Golden State et San Antonio au classement. Deux.
Alors, deux. D'accord. Oui, il me semblait qu'il n'y en avait que deux.
Deux.
Non, c'est ma faute. Regarde tes fiches.
Vas-y, Tony. Rattrape-moi, s'il te plaît. Réponds.
je sais pas. On est à trois matchs de Golden State. Je pense que la semaine qui va venir va être un peu déterminante par rapport à nous, ce qu'on va faire, et puis Golden State, ce qu'ils vont faire. Mais s'il y a 3-4 matchs de retard à ce moment-là, parce qu'on les joue dans la dernière semaine, dans les trois derniers matchs, je pense que les deux matchs, connaissant Pop et Steve Kerr, ils vont reposer tout le monde, quoi. Je pense pas qu'on va vraiment les jouer. Si on est à un match ou deux matchs, là je pense qu'on les jouera réellement, parce que tu joues pour l'avantage du terrain, pour avoir l'avantage du terrain jusqu'au bout, quoi. Donc,
voilà Romain, on te remercie d'être venu au 32-16. Le débat continue bien évidemment sur le hashtag RMC Live. Le temps pour moi de vous dire quand même qu'il y a eu des matchs importants aussi cette semaine, puisqu'il y a eu la victoire contre Portland 118-110 avec le 18 points 16 passes de toi Tony en seulement 27 minutes. Et gros succès également face aux Clippers pour une semaine encore parfaite. Rien à dire, Jacques?
Non, c'est que bon, on a le classement presque à l'ouest, 1, 2, 3, 4, on sait qui c'est jusqu'au 5e. On sait ce qui c'est. Et 6, 7, 8, là par contre c'est chaud patate. Utah qui chasse bien, Dallas, Portland, et j'en oublie un qu'on le fait aux fesses. Memphis à l'abri, même s'ils sont désossés. Donc le premier tour de playoff à l'ouest risque d'être déséquilibré. C'est le risque, et ça pourrait être une bonne chose pour ces équipes qui vont jouer pour la gagne, donc fait beaucoup de matchs intensément. Ils vont avoir un premier tour plus facile qu'à l'Est, où ça va être très difficile au premier tour. C'est au deuxième tour que les choses sérieuses vont commencer à l'Ouest.
En demi-finale de conférence Ouest, bien sûr. On suit ça avec grande attention sur RMC. Dans un instant, on parle handball dans ce Tipeee Show, puisque les filles de l'équipe de France se sont qualifiées ce week-end pour les Jeux Olympiques de Rio. Après un tournoi de qualif, c'était en France, à Metz. On accueillera également deux jeunes joueurs, un qui joue déjà en NBA, Damien Inglis à Milwaukee, le français. Et puis, ce sera une découverte pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le spot à l'heure actuelle dans le basket français. Il joue en Serbie, dans la ville de Mitrovica. C'est Timothée Luau. C'est une découverte. Il sera très fortement pressenti au premier tour de la draft en juin prochain. C'est dans quelques minutes sur RMC dans le Tipeee Show. Détour par les directs avec Arnaud Valadon d'abord. La suite de la proie de basket. Nancy Pau, le match en cours depuis 20h30, Arnaud.
Ouais, c'est la mi-temps même. 31 pour Nancy, 18 pour Pau.
La même chose pour Julien Tellier, c'est de la Ligue 2, Clermont Red Star. Julien, c'en est où?
C'est la mi-temps sur la pelouse du Gabriel Montpied ici à Clermont, 0-0 à la pause entre le Clermont Foot et le Red Star. Les Clermontois qui ont dominé le premier quart d'heure et puis les joueurs du Red Star qui ont plutôt dominé la demi-heure suivante. Les Clermontois qui ont concédé quelques grosses occasions. 0-0 à la mi-temps entre le Clermont Foot et le Red Star.
Allez, à tout de suite dans le Tipeee Show, handball et basket au programme. Alison Pinault, puis deux jeunes joueurs de basket, Damien Inglis et Timothée Luau. Le spot en basket, c'est dans un instant dans le Tipeee Show sur RMC jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Avec Jack Monclar comme tous les lundis également jusqu'à 22h. Du handball dans quelques minutes avec Alison Pinault qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais le débrief basket, c'est dans un instant. 100% basket avec Damien Inglis, le joueur français de Milwaukee en NBA. La découverte en Serbie pour le jeune français annoncé au premier tour de la draft, Timothée Luau. C'est dans un instant avec Tony Parker et Jack Monclar et vous au 32-16. Le temps de faire un nouveau détour par les directs en cours dans ce Tipeee Show. Nancy Pau, Arnaud Valadon.
Oui, c'est toujours la mi-temps, 31-18 pour Nancy face à Pau. Les Palois qui ont quand même perdu 11 balles durant la première mi-temps. Il va falloir faire attention et même au niveau de l'adresse, 8-28 pour l'élan Bernet qui pour l'instant ne justifie pas son statut de quatrième du championnat. Nancy 15e réalise un match plein d'intensité. En tout cas, il faut continuer du côté du SLUC Nancy. 31-18, ça repart dans 4 minutes.
Allez, à tout à l'heure pour la suite et la fin de cette rencontre. C'est le 100% basket dans un instant.
RMC, le débrief basket.
Avec l'ailier des Bucks de Milwaukee, il a seulement 20 ans, il est français et il joue depuis quelques matchs maintenant avec cette équipe de Milwaukee. C'est Damien Inglis, choisi en 31e position lors de la draft par Milwaukee. Damien Inglis qui est l'invité de ce Tipeee Show. Tony, il est avec toi.
Salut Damien, ça va?
Ça va Tony et toi?
Ben ça va, en pleine forme. Hein. Bon, petite soirée hier soir là contre Utah, là, match difficile pour vous.
Ah ouais, c'était pas le top, on va dire.
Tu l'as trouvé comment, Rudy Gobert?
Ça va, il a bien joué. Ils ont, après tu connais Utah, ils ont un beau collectif. Ils jouent bien que Rudy, ils ont aidé à le trouver à l'intérieur. Donc ça va, Rudy, ça va, il est bien, il revient bien, je trouve.
Et ton côté, 7 minutes, 2 points, t'as pas vraiment eu la possibilité de t'exprimer sur ce match, hein?
Ah, c'était compliqué. Dès le départ, c'était compliqué. On était derrière tout le match. Et cette nuit, j'ai pas beaucoup joué. Cette nuit, j'ai vu ce que je pouvais. Et c'était un match compliqué collectif. Donc, quand moi je rentre avec la deuxième minute, comme c'était déjà compliqué, c'était plus dur pour moi la deuxième minute de s'exprimer. Donc, c'était compliqué hier.
Par contre, jeudi, contre Memphis, tu t'es bien éclaté là. 21 minutes, 10 points, 5 rebonds. 3 contre, ouais, en plus c'était une victoire. Qu'est-ce que tu penses qu'a décidé Jason Kidd à te faire jouer plus?
Depuis que je suis revenu avec Dadley, je m'entraînais bien avec les gars, je m'entraînais super bien, donc je pense qu'il m'a donné une chance, et puis voilà, comme moi j'ai fait une bonne lancée, j'ai juste fait ce que je faisais en entraînement.
Et t'as l'impression que t'as passé un cap aux yeux du coach?
C'est compliqué, ça je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai passé un cap. J'ai augmenté mon niveau. Mon niveau, je suis au niveau supérieur maintenant. Donc, moi, je me sens mieux sur le plan basket, collectif et tout. Et après, aussi, du coup, ça, je sais pas trop. C'est plutôt lui. Mais moi, en tout cas, je sais que je vais me passer un cap. Ouais.
En tout cas, depuis que t'es à Milwaukee, t'as l'impression que t'as progressé, que t'as le respect de tes coéquipiers?
Ouais, les gars, ils me respectent. Ils me respectent. Au début, c'est compliqué, hein, évidemment. Tu sais, quand tu joues pas, il y a des questions qui se posent. Il n'y a que les Européens qui me connaissaient, donc Yanis, Yanis, les gars comme ça, ils me connaissaient, mais les Américains, ils ne connaissaient pas. Donc, dès que tu fais un ou deux bons matchs, ça change de regard.
On est avec Damien Inglis dans ce Tipeee Show sur AMC. Pour ceux qui nous rejoignent, le français des Bucks de Milwaukee. Jacques, peut-être un mot sur le parcours aussi de Damien, qui a un parcours pas si classique que ça pour arriver en NBA.
Oui, Damien, il a fait l'INSEP, il a fait partie de ces joueurs dominants dans les équipes de jeunes nationales. Après, il avait fait le All American à Portland, où il avait été bon, repéré là l'année où il participait. Damien, on l'a vu à Rouen, quoi. Donc, dans une année difficile où la chorale est descendue, c'était galère. Après, il s'est blessé. Cette année, il a fait un peu de D-League, beaucoup de D-League. Et à Milwaukee, ça tous, parce que moi, je les voyais beaucoup plus haut en début de saison. C'est une déception, alors que il y a une base d'équipe, il y a des bons jeunes, il y a Jabari Parker, Antetokounmpo, c'est énorme. Il y a quelque chose. Échec avec Carter Williams, j'en sais rien. Jackie avait fait un super truc. Il y a une nouvelle salle qui va sortir. Il y a quelque chose qui peut se passer à Milwaukee, qui est un patelin historique de la ligue. Pour Damien, moi, je lui souhaite d'accompagner ce mouvement parce qu'il y a des bons jeunes. Chris Middleton, qui est un shooter. Enfin, il y a quelque chose.
C'est le potentiel. Ouais. C'est une franchise d'avenir qui est en train de se construire progressivement. Et Clément au 32-16, auditeur d'RMC dans ce Tipeee Show, voulait justement avec toi, Damien, parler de la suite pour toi. Salut Clément.
Oui, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Moi j'avais une petite question pour Damien, c'était savoir comment lui il se projetait dans l'avenir, si ses désirs vont se réaliser. J'espère pour lui qu'il aura plus de minutes. Après, sur la fin de saison, peut-être qu'espérons, étant donné que Milwaukee n'a plus grand chose à jouer, est-ce que Jason Kidd lui a parlé de minutes en plus, est-ce qu'il attend plus lui aussi, je suppose que oui. Et après, est-ce qu'il se projette dans le projet de Milwaukee, ou est-ce qu'il a peut-être une envie d'aller voir peut-être autre part, même si je sais qu'il est sous contrat. Voir ce que lui projette dans l'avenir, en fait.
Salut déjà. Moi, le projet qui est chez Milwaukee me plaît. Le projet, j'aime bien la manière dont l'équipe joue, j'aime bien l'organisation, j'aime bien ce qui se passe ici. Donc, j'aimerais bien faire partie de cette vague de jeunes, comme il dit Jacques, dans ce projet. Et on a parlé déjà avec les dirigeants, et j'aimerais que j'en fasse partie, mais on verra. La suite, je sais pas ce qui va se passer, mais moi, pour l'instant, je me concentre sur le match de ce soir déjà, puis les matchs à venir pour en finir la saison. Après, bon, ça va être compliqué, comme tu dis, mais on a une toute petite chance de faire les playoffs. Faut qu'on gagne les matchs, quoi. Faut qu'on gagne quasiment tous les matchs qui arrivent. On y croit toujours. Donc, moi, j'ai plus ma concentration sur ça, sur les matchs qui arrivent. Et après, il y a l'été. On va aller voir ce qui va se passer pendant l'été. Puis, on va continuer. On va enchaîner, quoi.
On remercie Clément au 32-16. Damien Inglis, le joueur de Milwaukee. Peut-être une question également sur l'été, forcément, quand on est français, quand on commence à être un petit peu exposé, est-ce que le TQO de basket aux Philippines ou la prépa fait aussi partie de tes objectifs?
C'est quelque chose que
avec
j'aimerais faire.
Avec l'équipe de France, ouais.
Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais bien, évidemment, moi, c'est toujours apporté de l'importance pour l'équipe de France. C'est pas vraiment moi qui choisis, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, évidemment.
Jacques, peut-être un petit mot sur ce que pourrait apporter Damien dans la prépa
C'est difficile, Vincent Collet, là, il va avoir peu de préparation, alors il va y avoir une période où il y aura peut-être, et on leur souhaite, des joueurs au final NBA, mais je sais pas, il y a un volume de joueurs, et Damien, cette année, il a pas été exposé, donc ils ont peut-être moins de repères. Je sais pas si que lors de la visite de Patrick Beasley, il a reçu la visite de Patrick, ou quoi, je suis pas au courant de tout ça, moi, mais il y a un volume de jeunes joueurs jouant en Europe ou là-bas, ils feront leur choix, mais bon, ça c'est pour le squad. Après, l'équipe, je pense pas qu'elle va beaucoup bouger par rapport à ce qu'on connaît.
Il y a un groupe qui est figé jusqu'à Rayo inclus, quoi.
Au moins, voilà, je crois que toutes ces générations-là, c'est plus pour la suite.
Damien, on te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite, une bonne fin de saison d'abord avec Milwaukee.
Merci.
Ouais. Il faut bien finir toujours. Ça laisse toujours une bonne image.
Voilà, et puis, c'est clair.
Super important. Merci Damien. Merci d'être venu sur le show.
Merci les gars. Merci à vous.
À très bientôt et bonne fin de saison avec les Bucks de Milwaukee pour Damien Inglis. Dans quelques instants, le handball à l'honneur puisque une nouvelle équipe de France est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Ce sont les handballeuses qui ont gagné le droit d'aller à Rio après leur ticket remporté au tournoi de qualification olympique. C'était ce week-end à Metz. Elles avaient perdu le vendredi. Elles ont gagné le samedi et le dimanche contre le Japon et la Tunisie. Elles sont à Rio. Nous serons avec Alison Pinault, l'une des joueuses de cette équipe de France dans un instant. C'est le Tipeee Show sur RMC comme tous les lundi, on est ensemble avec Tony Parker et Jacques Monclar jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Et Jacques Monclar, comme tous les lundis, jusqu'à 22h. Dès 22h, c'est le retour du football sur RMC avec l'after de Gilbert Bribois et de toute son équipe. Dans quelques minutes, nous parlerons golf avec Alexander Lévy qui vise, pourquoi pas lui aussi, un billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais une qui est d'ores et déjà sûre, si tout va bien, c'est Alison Pinault, la handballeuse de l'équipe de France de handball, donc, qui s'est qualifiée brillamment pour les Jeux Olympiques de Rio.
RMC France Olympique.
Avec Alison Pinault donc, qui avec l'équipe de France s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques après le tournoi de qualif qui avait eu lieu à Metz. C'était ce week-end, une première défaite vendredi, mais deux victoires derrière. Et voilà donc les filles d'Olivier Crumble, Tony, à Rio pour les Jeux Olympiques d'août prochain. Et Alison Pinault est avec nous dans ce Tipeee Show, Tony.
Salut Alison, ça va ?
Salut Tony, ça va et toi ?
Ben ça va, hein, vous devez être soulagé là. Ça y est, vous avez votre billet pour Rio. Au moins toi, tu l'as, toi.
Ouais, voilà, moi je l'ai déjà, comme ça c'est fait.
Vous avez pas trop eu la pression après avoir perdu le premier match ?
Oui, c'est sûr qu'il y avait, il y a eu de la pression, mais je pense que on savait que bon, on avait de grandes chances de se qualifier quand même. Après, il fallait du sérieux, de la détermination.
Et justement, qu'est-ce qu'a fait ? Vous avez pu gérer cette pression, tu pensais, grâce à la cohésion du groupe ou à l'expérience que vous avez du haut niveau ?
Je pense que c'est un mix des deux. Je pense qu'il y a eu l'expérience des anciennes et après, il y a eu la détermination et la solidarité collective qui a fait qu'on a su gérer justement l'événement le dimanche, quoi, contre le Japon.
Et les Néerlandaises qui sont vice-championnes du monde et qui vous avez éliminé en quart de finale du dernier mondial, elles sont plus fortes que vous, tu penses, aujourd'hui, ou il y a moyen de rattraper tout ça ?
Je pense qu'elles sont plus fortes que nous, mais je pense que nous, on a une bonne marge de progression jusqu'au jeu. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu pas mal de chamboulements, il s'est passé beaucoup de choses et que forcément, Olivier, étant juste revenant, il pouvait pas tout chambouler. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé des principes de défense, mais on aura le temps de peaufiner, de bien travailler, d'y sérieux.
Bon, revanche au JO alors. D'ailleurs, c'est quoi l'objectif à Rio ? C'est une médaille olympique ?
Ouais, c'est sûr que c'est, on n'y va pas pour faire de la figuration. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Et je sais que je ferai bien passer le message dans l'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, donc c'est jamais facile. Mais en tout cas, on y va pour faire une médaille, quoi. Donc on sait qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas impossible.
Ouais, parce que tu dois aussi toujours avoir en tête Londres aussi, les 1500 en quart là contre Monténégro aussi.
C'est ça. Il y a toujours Pékin et Londres. Forcément, Londres, c'était plus cruel encore.
Oh, Pékin, ça avait fait mal aussi. Hein.
Ouais, Pékin, ça avait fait mal.
C'était
Londres,
pas passé sur les terrains en plus. C'était un peu les arbitres.
Oui, c'est vrai. Je ne commenterai pas les arbitres, mais c'est vrai que c'est deux scénarios différents. À Pékin, on était quatrième de la poule. À Londres, on était première. On était invaincu. C'est vrai qu'on abordait le quart dans des conditions totalement différentes. Donc c'est vrai que 2012 a été encore plus cruel.
Alors qu'est-ce qui manque alors à cette équipe de France justement pour titiller les toutes meilleures nations du hand féminin ?
Sauf si j'avais la réponse, je dirais. Oh là là, je suis heureuse. Non, je pense que ça joue vraiment sur des détails et que c'est un travail de longue haleine. Au quotidien, quoi. Donc, c'est se responsabiliser, c'est être plus professionnel et c'est être confronté aussi le plus souvent au haut niveau, quoi. Donc, jouer des Coupes d'Europe comme la Ligue des Champions et dans des clubs qui ont une grande exigence.
En tout cas, c'est la cinquième qualification consécutive là, de l'équipe de France de hand féminin pour les Jeux Olympiques. Comment tu expliques une telle régularité ?
Je pense qu'on a une bonne école aussi en France. Il y a un bas quand même, que ce soit féminin ou masculin, il y a ça suit bien, il y a des pôles, il y a une vraie culture quand même au sein de la fédération. Donc moi je pense que c'est ce qui fait que l'équipe de France a toujours participé à une compétition internationale entre l'Euro, les Mondiaux et les Jeux, quoi.
Et ça vous inspire un peu quand même, les garçons, ce qu'ils font?
Ouais, bah bien sûr, comment ça ne me fait pas inspirer, franchement.
Ouais, non, mais c'est clair. Et pour toi, ça sera tes troisième JO quand même, hein. Troisième JO à seulement 26 ans, donc les JO, c'est un peu le summum quand même pour ta carrière.
Ouais, totalement. Bah c'en est presque devenu une obsession, hein, quand même, hein. Donc c'est sûr que là, Rio, ça sera dans un autre contexte aussi, mais parce que l'équipe sera beaucoup plus jeune par rapport à 2012 et 2008. Mais justement, faut qu'on arrive à trouver justement le bon amalgame, quoi, dans l'équipe pour bien huiler tout ça jusqu'à Rio, parce que justement, il faut que les jeunes amènent leur fraîcheur. Cette grinta, peut-être que nous, les anciens, on a moins, parce qu'on est beaucoup plus à l'expérience. C'est différent, quoi.
Tu te rends compte, Tony? Alison dit qu'elle a 26 ans, mais c'est une ancienne.
Mais c'est ça, quand tu commences tôt, premier JO à 18 ans,
c'est un peu le cas de Tony aussi, hein. Ça vient à la fois de gens qui commencent jeunes et qui ont une nature un peu de leader. Au bout d'un moment, t'es vite vieux, même si t'as que 26 ans.
Vieux, bon, bah, la retraite, Alison, ça y est, c'est bientôt.
Pas encore.
C'est quand même original de Paris de passer par Metz pour aller à Rio, hein. Ça, c'est pas la route.
Oui,
hein.
Ça, c'est pas vraiment la route directe.
C'est par la Lorraine.
Et aussi, Alison, on a beaucoup commenté le retour d'Olivier à la tête des Bleus. C'est le coach idéal, tu penses, pour vous emmener loin à Rio?
Le coach idéal, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il connaît très bien le milieu. Il a déjà vécu plusieurs JO. Donc, ce n'est pas négligeable parce que c'est vraiment particulier. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à mesurer justement la dimension de cet événement.
Mais ce sera ses cinquième JO à lui aussi, si je me trompe pas.
Eh oui.
Du coup.
Eh oui. Donc, je pense que justement le fait qu'il a été vaincé, il a pris aussi du recul. Et peut-être que c'est une bonne chose pour lui justement d'avoir eu ce petit break pour justement mieux sauter.
En tout cas, on te remercie, Alison, à 347 sélections en équipe de France. On l'a pas dit, mais c'est quand même impressionnant. Et
347, t'imagines? Bah ouais, c'est la retraite bientôt. Non, je rigole.
Et Alison, tu continues à jouer la Ligue des Champions avec ton club roumain de Baia Mare. Hein.
C'est ça.
Donc la saison est loin d'être terminée.
Carte finale, là. L'objectif, c'est de la gagner, là.
Bah là, c'est d'aller au Final Four, là, surtout. Donc ça va pas être facile, hein, mais on va tout faire. Hein.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Alison. Merci d'être venue sur le show.
Merci à toi, Tony.
À bientôt.
Avec plaisir.
À très bientôt. Et bonne fin de saison avec ton club roumain. Et bien sûr, la prépa de l'équipe de France féminine de handball à suivre sur RMC, puisque la radio officielle de ces équipes de France de handball, c'est évidemment RMC. Dans un instant, on parle golf avec Alexander Lévy, qui lui aussi, pourquoi pas, voudrait aller à Rio. C'est un peu plus complexe à comprendre les qualifs pour les Jeux Olympiques, pour le golf qui sera pour la première fois au jeu. Mais avant cela, des tours par nos directs. Nancy Pau, la proie de basket, Arnaud Valadon.
2 minutes encore à jouer dans le troisième quart-temps. Nancy est devant, 39 à 33. Les Palois n'abdiquent pas dans ce match plutôt défensif, mais Nancy peut compter sur Florent Pietrus qui a inscrit les 5 derniers points nancéens. Déjà 2 tirs à 3 points réussis par lui, c'est plutôt méconnu. 39 pour Nancy, 33 pour Pau. 1 minute 40 à jouer dans le troisième quart-temps.
Julien Tellier, la Ligue 2, le foot avec Clermont Red Star, Julien.
La 52e minute de jeu à Clermont, 0-0 toujours entre le Clermont Foot et le Red Star, mais match de bon niveau, hein, entre le 5e et le 6e de Ligue 2, mais ce sont les joueurs du Red Star, les hommes de Roel Meda qui monopolisent le ballon dans ce début de seconde période avec les Clermontois qui souffrent pour construire leurs actions face à un bon milieu de terrain du Red Star. 52 minutes de jeu, 0-0 entre le Clermont Foot et le Red Star.
Et donc, comme promis, je sais que tu as un golfeur averti, Tony. Nous sommes avec quelqu'un qui a gagné 2 tournois en 2014 sur le Tour européen. C'est l'autre tête d'affiche du golf français avec Victor Dubuisson, à seulement 25 ans. Alexander Lévy est avec toi dans ce Tipeee Show, Tony.
Salut Alexander, ça va?
Bonsoir, salut.
Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. À part Thomas Levé, tu es le deuxième golfeur de l'histoire du Tipeee Show. Merci, c'est cool.
Bah, c'est avec grand plaisir.
Bah, alors comme ça, tu es à Paris alors, mais pour faire du vélo, c'est quoi cette histoire?
Ouais, bah, j'ai relevé un petit défi de monter l'Alpe d'Huez. ça va être un...
Je connais la flûte jazz, moi aussi je l'ai fait, mais c'était plus pour rigoler.
Ouais, ben je vais le prendre un peu en détente quand même. Même si c'est pour la bonne cause.
C'est pas facile,
pour le...
je te souhaite bonne chance, challenge. Parce que c'est super dur. Hein.
C'est pour, ouais, c'est pour la bonne cause, hein. C'est pour l'association L'Étoile de Martin. Vous faites équipe avec 10-12 personnalités, et puis c'est en relais, et puis le parcours mythique, donc c'est l'Alpe d'Huez, tu viens de le dire, l'objectif étant de récolter 15 000 euros à l'issue de cette soirée.
Ouais, c'est ça, pendant 10 minutes, on va être pied au plancher.
Bah, tu peux nous expliquer un peu la vie d'un golfeur alors, ça ressemble à quoi? C'est comme dans le tennis, tu passes ta vie dans les avions et les hôtels?
Ouais, bah, c'est ça, 25-30 tournois à l'année dans tout le monde entier, donc on voyage beaucoup entre l'Asie, les États-Unis. On va pas se plaindre, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas souvent à la maison, mais voilà, moi c'est une vie que j'adore. Pour rien au monde je changerai, et je suis vraiment très heureux de faire ce métier et cette passion qui est une passion avant tout.
Et justement, t'en penses quoi alors, ton début de saison? Bon, je sais que t'as fait ta deuxième place en Australie, mais je pense que tu t'attendais à mieux, non?
Oui, c'est sûr, je m'attendais à mieux, mais c'est vrai que cette deuxième place en Australie m'a fait du bien. Ça faisait un moment que j'avais pas joué sous pression du dernier jour pour la gagne, et voilà, ça m'a fait du bien de faire ce moins 6, ce dernier tour avec cette adrénaline là, donc il y a beaucoup de positifs pour la suite de la saison.
En tout cas, on sait que le golf, c'est super dur, hein, parce que moi, je joue au golf aussi, et un jour, je suis super bon, un jour, je suis super nul. Un jour, je pense que je peux être professionnel, et en fait, le lendemain, non, c'est pourri. Comment ça se fait qu'au golf, tu peux perdre ton jeu, mais du jour au lendemain, quoi?
Bah, ce qu'il y a, c'est que je pense que le mental intervient énormément dans ce sport, et dès que tu commences un peu à te poser des questions, bah, là, c'est fini. Et je pense que c'est un sport tellement dur mentalement. Mais je trouve que j'amène beaucoup de ressemblances entre le basket et le golf. Sur par exemple sur le putt, je le compare vachement à un lancer franc au basket. Et
lancer franc. Ouais.
Ouais, je trouve qu'il y a vachement de similitudes au niveau du mental, et je trouve que c'est un peu ça se rapproche vachement.
Moi je comprends, Tony, que tu te poses trop de questions.
Non, mais ouais. Elle est bonne son analyse, que c'est vrai qu'au lancer franc t'en fais tous les jours, et t'as tellement de gens qui me disent mais lancer franc c'est facile en fait, mais quand t'as les matchs, la pression et que tu sais que ton bras il est paralysé, et bah d'un seul coup t'arrives plus à tirer, quoi. Et c'est vrai que dans le golf c'est un peu pareil, quoi.
Jacques, le golf tu te poses pas de questions, toi?
Non, moi j'ai plus le temps d'y jouer, mais quand j'étais joueur et au début entraîneur, je sais, c'est vrai que la prise d'appui large ressemble. C'est vrai que par exemple quand on shoot, il faut finir son geste et pas regarder, il faut garder la tête fixe, regarder, il y a des
routines dans le geste,
les routines, les gammes des grands joueurs, enfin mais tous les sports se retrouvent. Mais c'est vrai que dans l'attitude il y a des traverser le truc, enfin bref, il y a quelques similitudes, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font les golfeurs. C'est extraordinaire, puis c'est intelligent, parce que finalement c'est toujours la même balle, c'est toujours le même club, mais c'est toujours différent.
Ouais, même trop.
Ouais. En finalité, bravo.
Mais pour comparer le geste du putt à un lancer franc, Alexander, tu t'intéresses au basket aussi?
Ouais, ben là j'étais samedi dernier, j'étais allé voir Antibes Strasbourg, donc je suis un petit fan de basket quand même.
Ah, Antibes,
on a Antibes.
Antibes. Antibes, Jacques, il doit être content.
Ouais, ça y est, Thierry, il y a les yeux qui brillent là.
C'est un bel endroit, allons.
Ouais, la salle est belle,
mais bien sûr.
Le nouveau stade est beau.
C'est vrai.
Ouais.
Non, mais ça ressemble à quoi, Alexander, tes journées d'entraînement? Ça ressemble à quoi?
Ben voilà, je commence, bon, l'hiver, je commence un peu plus tard parce qu'il faut qu'il fasse un peu plus chaud, mais je pense que je fais 5-6 heures de golf et 1h30 de physique. Ça, c'est voilà la classique, un peu des routines de golf. Après, je mets ce que je mets à l'intérieur, je change un peu par rapport aux formes du moment, mais voilà, c'est 5-6 heures de golf concret, et après un peu de 1h30 de gym.
Ouais, quand même. Bah, tu vois, en plus, c'est un peu Tiger Woods qui a commencé ça pour le golf, hein, d'être un sportif, de faire de la muscu et de s'entraîner tous les jours. Parce qu'avant, il y avait pas mal de gens qui disaient en rigolant, ah, mais le golf, c'est pas un sport. Et Tiger, lui, il disait tout le temps, mais moi, je suis un athlète avant tout, quoi.
Ah ouais, c'est lui qui a amené cette mode-là. Et bon, de nos jours, il y a beaucoup de monde qui le suit, quoi. Et qui font que ça, quoi. quand on voit un Rory McIlroy ou un Jason Day, c'est vraiment des athlètes et on a l'impression qu'ils pourraient faire n'importe quel sport.
Et justement, tu vas participer à des majeurs cette année ?
Pour l'instant, non. Mais bon, si je continue à bien jouer, il y a de fortes chances.
Et les JO, ils sont rentrés au... Le golf, il est rentré au JO cette année, c'est un objectif ?
Ouais, j'ai vraiment envie pour plein de choses. Déjà parce que j'ai envie de jouer les Jeux, j'ai envie de porter le maillot de l'équipe de France, parce que pour nous, au golf, il y a très peu de compètes sous l'équipe de France. Ouais, et trois, parce que j'ai envie de voir tous les sports, et dont le basket et l'équipe de France.
C'est gentil.
Il veut profiter.
Voilà.
Comment on fait, Alexandre, pour entre guillemets se qualifier ou aller au jeu quand on est un golfeur français? C'est quoi? C'est par le ranking? C'est par des quotas? Il y a combien de tickets pour expliquer aux gens? Parce que c'est pas aussi simple que par exemple le handball avec Alison Pinault il y a quelques minutes.
En fait, c'est simple. C'est les 15 premiers mondiaux. Donc les 15 meilleurs joueurs au monde, et après c'est deux joueurs par pays, voilà.
Okay.
Donc c'est les deux meilleurs joueurs par pays au ranking mondial.
D'accord. Et pour l'instant,
donc, c'est une désignation de la DTN, de l'entraîne des entraîneurs nationaux, quoi, de votre fédération.
Je crois que ouais, c'est toutes les fédérations qui ont fait quelque chose de commun et qui ont dit que c'était par rapport au ranking mondial, ouais, qui est le plus simple.
Gros objectif en tout cas pour Alexandre Lévy. Tony, on va le remercier.
Bah ouais, bah merci beaucoup Alexandre, et puis bah, peut-être à Rio alors, hein, avec plaisir.
Ah, merci, avec grand plaisir.
Et
à
très
bientôt.
Et bonne soirée, merci. Bon vélo pour reverser des fonds à l'Étoile de Martin. On rappelle que tu pédales ce soir entre 5 et 8 minutes pour faire le parcours de l'Alpe d'Huez. L'objectif étant de récolter plus de 15 000 euros de dons à l'issue de cette soirée. Dans ce Tipeee Show, dans un instant, on ne désespère pas avoir le joueur qui a été annoncé, Timothée Louaou. Mais on parlera également de basket dans la fin de cette émission avec Jacques, avec Tony et vous, bien évidemment, au 32-16 pour venir sur tous les sujets. Sujet de l'actualité de basket de la semaine qui vient de s'écouler. Mais avant cela, le tour par nos directs. Arnaud Valadon, Nancy, Pau, La Proie.
On est dans le dernier carton, 8 minutes encore à jouer. Plus 10 pour Nancy face à Pau, 48 à 38.
Et la Ligue 2 de foot, Clermont, Red Star, Julien Tellier.
On atteint l'heure de jeu, il reste une demi-heure à jouer et toujours 0-0 entre le Clermont Foot et le Red Star.
Allez, à tout de suite dans le Tipeee Show. Encore quelques minutes à passer ensemble avant 22h sur RMC avec Tony Parker, avec Jacques Monclar et vous au 32-16 juste après. C'est l'After Foot qui revient avec Gilbert Huivois dans cette semaine internationale où l'équipe de France de Didier Deschamps vient de se rassembler à Clairefontaine. À tout de suite.
RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Et Jacques Monclar, bien sûr, jusqu'à 22h avant l'After Foot qui revient dans quelques minutes. Mais avant de reparler basket, détour par nos directs. Arnaud Valadon, Nancy, Pau, La Proie qui continue.
Ouais, 6 minutes encore à jouer dans cette partie. Nancy est toujours devant de 6 points désormais, 49 à 43 face à Pau.
Et Julien Tellier, Clermont Red Star, la Ligue 2.
Ouais, avec l'ouverture du score pour les joueurs du Red Star, le but signé Florian Maketjouf il y a de cela 3 minutes exactement sur la pelouse du Montpied. Maketjouf qui s'infiltre dans la surface de réparation côté gauche, et puis Mehdi Janin, le gardien clermontois, qui hésite à sortir, qui finalement ne sort pas, reste sur sa ligne, et Maketjouf du pied gauche à l'angle des 6 mètres qui fusille le gardien clermontois. Ça fait donc 1-0 pour le Red Star à 25 minutes de la fin du match. Pour l'instant, l'excellente opération, elle est pour les joueurs de Royal Emilia, les joueurs de Seine-Saint-Denis qui mènent 1-0 sur la pelouse du Clermont Foot.
Allez, c'est parti, on a encore quelques minutes à passer ensemble. C'est le débrief basket de
RMC US Sports News. Tony Parker.
Beaucoup de messages, Tony et Jacques, sur l'éternel Dirk Nowitzki. 40 points à 37 ans. Dirk, ouais.
Ouais, ce monsieur fait son américain.
Oh là là, c'est une chose. William Anthony, qu'est-ce que tu dis?
Je sais pas. Non, bon, ouais. T'as dit 40 points Dirk, oui.
40 points à 37 ans pour Dirk Nowitzki. C'est une grosse perf aussi quand même.
Oui, quand tu
c'est sûr. Bah, de toute façon, Dirk, il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, donc pas étonné. Bon.
Il y en a que trois qui l'avaient fait, c'est Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar et Michael Jordan, avec Washington.
en plus.
Ouais.
Ce qui est plutôt rare. Ce qui est plutôt rare. Autre actu, peut-être parce que tu le connais bien et ça fait un petit moment qu'il est revenu sur les parquets, c'est Andy League, mais le retour de Baron Davis qu'on avait eu il y a quelques années dans le Tipeee Show. Ouais. Ça fait quoi? C'est une histoire sympa aussi à raconter parce que Baron Davis qui arrête sa carrière et qui revient comme ça dans le championnat inférieur par rapport à la NBA. Qu'est-ce qu'on a pensé,
toi? Je t'avoue que j'étais un peu surpris quand j'ai vu ça, mais après je suis super content pour Baron, hein. C'est un joueur quand même qui a marqué un peu la NBA. On se rappelle de leur qualification de Golden State là quand ils avaient battu Dallas.
Mais Dallas au premier tour.
La NBA, ouais. Ouais, c'était une des séries mais les plus folles que j'ai jamais vues, une des séries les plus folles de l'histoire de la NBA. Donc ça me fait plaisir de le revoir jouer.
Jacques le Baron.
Le Baron, ouais, le Baron, c'est un personnage. Bon, ben il a envie de jouer au ballon, il s'éclate et il va au bout des trucs, il fait des déclarations assez truculentes. C'est un personnage. Enfin, je le connais pas. Mais Tony le connaît, mais ça a l'air d'être un sacré compagnon, un drôle de sujet.
Et puis autre grosse info quand même dans la NBA, toujours c'est un Davis, mais c'est Anthony Davis, saison terminée pour les joueurs des Pelicans. Gros coup dur pour New Orleans pour cette fin de saison.
Oui. Enfin...
Ouais, ça c'est clair que ça fait mal, hein, c'est sûr. Mais bon, après ils n'allaient pas se qualifier pour les playoffs. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Jacques, mais bon, je pense que c'est le bon choix.
C'est une saison ratée par rapport à ce qu'il avait montré l'année dernière, même s'il aura fait une pointe ou deux, puisque je crois que c'est lui qui a le record de points de la saison. C'est une saison ratée pour New Orleans, beaucoup de blessés. Monty Williams qui avait été débarqué, je pense que les joueurs se sont mis un moment à s'en remettre, je sais même pas s'ils s'en sont remis. Voilà, oui, c'est la meilleure solution, ils gagnent du temps. Ils vont pas se qualifier en se faisant opérer, ils gagnent du temps. Par contre, il fera probablement pas les jeux.
Il fera pas les jeux.
Ouais, ils en ont d'autres. Je suis pas inquiet pour eux non plus, tu vois.
Alors, autre bonne nouvelle dans le monde de la NBA pour nous français, Axel Toupane qu'on essaye d'avoir bien évidemment chaque lundi, mais avec le calendrier de la NBA et de son club des Nuggets de Denver, c'est pas si évident que ça. Il re-signe un contrat de 10 jours, bonne nouvelle pour Axel.
Ouais, ça c'est sûr, franchement c'est une bonne nouvelle. Il fait des bonnes perfs quand même, hein. C'est pas mal ce qu'il fait. Donc maintenant faut voir ce que Denver va en faire. Donc déjà il a 10 jours de plus pour montrer voilà des choses et essayer d'avoir un petit truc pour essayer de moins être dans l'équipe pour les Summer League.
Voilà, ouais, je crois qu'il c'est bien ce qu'il a fait. Déjà, et s'il confirme, il sera pas passé sous les radars. Il aura été vu. Et c'est de bonne augure pour essayer d'attraper un contrat ferme l'année prochaine.
Et puis, le gros sujet, j'imagine, aux États-Unis, c'est la fameuse March Madness. Tony, les phases finales du championnat universitaire de basket. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir des choses particulières?
C'est, non, je t'avoue, je regarde pas
c'est
trop.
C'est de la folie totale et Enzo.
Je sais, il y a eu une grosse journée là, avec plein de upsets et tout ça, mais je t'avoue que j'ai pas...
C'était énorme, mais il y a tellement... Il y a combien de matchs au premier tour?
Et moi je suis aussi, j'ai du mal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une équipe qui a ramarré 12 points en 35
secondes. C'est Texas A&M.
Ouais, c'est ça, Texas A&M qui a accroché contre les Iowa quelque chose.
Iowa State, je crois, de mémoire.
Voilà, j'ai vu qu'il y avait eu une claquette au buzzer aussi. Ouais. C'est pas Duke, non. Non, c'est Notre Dame qui a gagné au buzzer.
Ah, tu fais ton requin toi aussi.
Oui, voilà. Voilà, chez Monrique. Non, bon, enfin, c'est la March Madness. Là, ils arrivent vers le top 16, quoi. Le Sweet 16, ils arrivent.
On va commencer à suivre.
Voilà.
Il y a un vrai spécialiste avec nous, c'est Enzo qui voulait en parler au 32-16. Salut Enzo.
Bonsoir François, bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Alors toi, tu suis plus que nous, a priori.
Ouais, j'ai vu la claquette de Notre-Dame contre Austin. J'ai vu le match incroyable entre Texas et Northern Iowa. Bon, ça c'était pas des upsets, mais c'était des matchs fous effectivement. On a une March Madness de folie, très équilibrée.
Hawaii qui gagne aussi.
Hawaii qui gagne, surtout. Ça c'est vrai que c'est le plus gros, le vrai upset. C'est vraiment Hawaii hein, qui a battu le Cal de Brandon Ingram, qui est sûrement pronostiqué comme le numéro 1 avec Ben Simmons. Donc ça c'était non j'ai dit Brandon Ingram, j'ai dit Jalen Brown pardon de voilà quoi donc c'était vraiment chaud mais voilà Hawaii qui s'est fait sortir hein, juste après contre Maryland. On aura un Maryland comme ça jeudi, ça sera cool.
Bon bah ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir te rappeler la semaine prochaine si on suit pas Enzo.
Ouais, bah avec plaisir. Avec grand plaisir. Non mais justement je voulais voir avec Tony, même s'il a dit qu'il avait pas trop suivi. J'aurais bien voulu voir celui qu'il avait un petit peu jeté, notamment Ben Simmons. Je pense que tout le monde en parle là-bas. On en parle comme futur LeBron. On en parle comme on fait beaucoup de comparaisons, surtout outre-Atlantique. Et j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il ressent là-bas directement.
Ouais, on l'a annoncé comme un des premiers choix quoi dans la nouvelle draft. Il vient d'annoncer là qu'il a mis son nom à la draft, hein, donc il va venir. Donc c'est un joueur talentueux. Hein. Après, pour être honnête avec toi, je l'ai vu jouer que 2-3 fois moi à la télé. Donc je sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est toujours dur de savoir comment un joueur va, comment ça va se traduire quoi, comment il joue en NCAA et après en NBA. Et il va falloir un peu de temps parce que ils sont jeunes hein, les joueurs qui arrivent à chaque fois.
Voilà Enzo, merci d'être venu au 32-16, c'est déjà la fin de cette émission.
Attends, ce qu'il y a de bien avec la NBA quand même, hein, c'est que Tony, là, histoire de Curry, puis ce soir il a quand même un cas social devant lui.
Oui, parce que dans
3 heures... C'est un métier à plein temps de défendre sur Kemba Walker aussi, Tony.
Walker, ça va être du boulot.
Il est chaud bouillant. Tu diras bonjour à Nico Batum, mais on te souhaite une bonne semaine, un bon match et tout ça. On est un peu suite parce qu'il y a un match dans 3 heures. Merci Tony, rendez-vous la semaine prochaine, lundi 21h, 22h. 22h, c'est l'heure, Jacques.
Il est là.
Gilbert Bribois pour l'after jusqu'à minuit. Gilbert,
salut les gars. Et oui, on est là jusqu'à minuit avec l'after comme tous les lundis, la Ligue 1, les drôles de dames et les directs, la Ligue 2 d'abord. Allons tout de suite à Clermont-Ferrand, Clermont Red Star. Julien Théier, bonsoir.
72 minutes de jeu sur la pelouse du Gabriel Montpied. Bonsoir Gilbert, et c'est le Red Star qui pour l'instant fait la bonne opération, le Red Star qui grâce à Maketjouf mène 1-0 sur la pelouse de Clermont.
Et puis la pro de basket bien sûr, Nancy Pau. Arnaud Valadon, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, c'est chaud, 58 pour Nancy, 53 pour Pau, il reste 2 minutes.
Et l'after est là tout de suite avec vous.